Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. Il est 8h03. Bienvenue dans notre émission Les rendez-vous du Mantois que nous proposons chaque semaine le vendredi à 8h. Aujourd'hui, nous sommes à Houdan et nous sommes reçus par le maire Jean-Marie Tétard. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Avec vous, nous reviendrons sur la mobilisation de la ville en faveur du peuple ukrainien. Nous parlerons du projet du nouveau quartier prévu du côté de la zone de la prévôté. Et puis, nous aborderons également les aménagements concernant le stationnement et le groupe scolaire. On commence donc par la guerre en Ukraine. Depuis fin février, il y a une grande mobilisation dans les Yvelines, comme partout en France, pour aider le peuple ukrainien. Expliquez-nous ce que vous faites à Houdan pour cette action humanitaire.
À Houdan, nous sommes terrifiés, comme bien d'autres villes, par cette situation et nous nous sentons effectivement totalement solidaires. Immédiatement, on joue avec le symbole, donc effectivement afficher les couleurs de l'Ukraine, décliner ces couleurs sur nos sites, etc. Et le symbole est important. Nous avons organisé effectivement une collecte de dons, mais avec des produits bien spécifiques pour ne pas encombrer les humanitaires avec des choses qui ne serviraient à rien. Et très vite, nous appelons à plutôt faire des dons en argent et en résonance d'ailleurs avec les instructions que l'on voit un peu au niveau gouvernemental, en appelant à faire des dons en argent à un certain nombre d'associations, en évitant aussi les arnaques informatiques, les arnaques dans la rue de collecte, etc. Mais surtout, je crois qu'à l'avenir, nous allons essayer, avec la communauté de communes du Pays Houdanais, en mettant sur le Pays Houdanais un dispositif en place pour coordonner l'accueil des réfugiés. L'accueil des réfugiés parce que beaucoup d'habitants, et c'est heureux, prennent des initiatives, vont chercher des réfugiés directement en Roumanie ou en Pologne, reviennent avec beaucoup de générosité avec ces réfugiés dans leur voiture ou dans leur petit bus, et ensuite se posent la question de l'accueil, de l'organisation, et cela dans la durée. L'accueil spontané est une chose facile. L'accueil dans la durée, il faut l'organiser. Il faut organiser la scolarisation, il faut organiser le recensement des logements, l'équipement des logements en meubles, etc. Il faut organiser aussi l'accueil de traduction, d'accompagnement dans les démarches administratives. Et donc nous sommes en train de mettre à l'échelle du Pays Houdanais un comité de pilotage pour coordonner un petit peu tout cela pour qu'à la fois il y ait une action, un accueil bienveillant mais efficace. La bienveillance ne suffit pas, il faut aussi de l'efficacité.
Vous parliez de dons financiers, vous prévoyez d'allouer une aide financière à remettre à une organisation ?
Alors la commune s'est toujours engagée. La commune est une commune solidaire dans tous les aspects de la solidarité, depuis les logements sociaux jusqu'aux tarifs, aux quotients familiaux dans les tarifs municipaux, mais aussi une solidarité qui existe depuis longtemps avec l'Afrique, où nous accordons 1 euro par habitant sur notre budget pour des projets sur l'Afrique, 1% de nos budgets eau et assainissement. Et donc là, nous allons effectivement faire voter une participation de 1 euro par habitant, c'est symbolique, pour adresser cela à la Croix-Rouge, sans doute, internationale. Mais nous allons aussi nous engager dans le futur. J'ai demandé à ce qu'on puisse parrainer une ville ukrainienne, parce que je crois que le symbole est important. Il faut aider les réfugiés ici, mais il faut montrer quelque part aux gens qui restent là-bas qu'on pense en eux en permanence et qu'ils aient une référence. Je crois que dans la détresse où ils sont, il faut qu'ils sentent qu'ailleurs dans le monde, il y a une communauté, pas simplement un individu, une communauté qui collectivement va penser à eux et être en lien avec eux. Donc nous allons organiser cela aussi.
Et concrètement, ce jumelage dont vous parlez, il se matérialiserait sous quelle forme ?
Je ne parle pas de jumelage, je parle d'un parrainage. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que toutes les communications puissent être coupées avec l'Ukraine, il y aura toujours des moyens de communiquer. Je pense qu'il restera toujours des réseaux sociaux improvisés, etc. Et que ce qui est important demain, c'est que peut-être que chaque habitant du Pays Houdanais puisse envoyer, du Pays Houdanais ou de la ville de Houdan, envoyer un message aux habitants d'une ville qu'on choisira avec l'aide des institutions du Conseil de l'Europe, etc.
On passe à présent au projet prévu dans la commune. D'abord, le développement d'un nouveau quartier d'ici 2023, du côté de la zone de la prévôté. Début février, deux projets en compétition ont été présentés à la population sous forme d'une exposition pendant une semaine. Alors, quel projet a été retenu finalement et qu'est-ce qu'il propose ?
Alors, l'ensemble des projets, je voudrais rappeler que nous sommes partis d'une compétition entre 17 promoteurs aménageurs, que 4 ont été retenus, puis 2, Et enfin, les deux ont donné lieu à une exposition avec consultation de la population. Pas une consultation pour le plaisir de consulter, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons fait voter les habitants qui sont venus et leur choix a été pris en compte dans une pondération dans le jugement du jury. Un peu comme dans les grandes compétitions télévisuelles, il y a l'avis du jury et l'avis du public. Bon, voilà. Donc on a fait la même chose et je crois que c'est une démarche intéressante. Alors, le promoteur aménageur, plutôt un aménageur qui était retenu, c'est un groupement entre Citalios, qui est un aménageur, et Kaufman & Broad. Bon, le projet, ça se choisit à la fin sur pas grand-chose, sur des impressions, puisqu'ils devaient tous répondre au cahier des charges de la commune, sur le nombre de logements, sur la diversification, la diversité des logements, sur l'équilibre entre locatif et accession à la propriété, entre logement social, etc. Et puis surtout, des contraintes d'accrochage de ce nouveau quartier à la ville, que ce ne soit pas un quartier indépendant, qu'il soit relié. Et puis enfin, parce que c'est indispensable, tous les caractéristiques que l'on peut exiger aujourd'hui dans le domaine écologique, environnemental, etc. Et donc, il y a eu un jugement technique, et puis, les projets sont quand même assez peu différents à la fin, parce qu'ils répondent à un cahier des charges. Mais le public, d'ailleurs, nous avions posé au public trois questions qui étaient simples, qui étaient une question de ressenti. Dans lequel de ces deux projets aimeriez-vous davantage vivre? Lequel vous paraît le mieux relié à la ville? Et lequel vous paraît le plus écolo? Parce que quelque part, l'avis à la population, faut pas tricher. Si on demande l'avis à la population sur des trucs très techniques où ils n'auront pas de réponse, c'est pas la peine. Là, c'est plutôt le ressenti qui a départagé les gens à la fin. Voilà.
L'objectif de ces projets, c'est de proposer plus de logements parce que la population augmente?
Non, c'est pas parce que la population augmente qu'on fait plus de logements. C'est le contraire. C'est-à-dire que quelque part, je crois que la dynamique d'une ville, on en parlera avec Petite Ville de demain, etc. La dynamique d'une petite ville repose aussi sur une attention particulière au développement démographique. On ne peut pas vouloir soutenir son commerce de centre-ville avec une population qui baisserait en quantité. On ne peut pas développer l'attractivité culturelle, etc., si la population baisse. On ne peut pas revendiquer d'augmenter les services rendus à l'hôpital local si la population baisse. Je crois qu'il faut, contrairement à ce qu'on pense, il faut avoir une attention très particulière au maintien et au développement d'une population, de manière lente, de matière maîtrisée, mais c'est un facteur qui est très important pour l'équilibre d'une cité comme la nôtre. Et donc, oui, nous continuons à penser qu'il faut organiser un certain nombre de quartiers pour augmenter notre population, non pas démesurément, mais pour garder nos services, parce qu'il y a une masse critique à avoir. Alors, il ne faut pas le faire n'importe quoi. À Oudan, nous sommes dans les tendances actuelles de l'urbanisation, c'est-à-dire que nous voulons construire avec une certaine densité. Il n'est plus question de faire des lotissements, etc. Nous construisons des immeubles. Actuellement, à Oudan, nous sommes plutôt dans des densités à 70 à 80 logements à l'hectare, ce qui change complètement avec les étalements urbains. Donc nous sommes respectueux de tout cela. Et c'est donc un développement, ça continue à participer à notre développement qu'on appelle maîtrisé, équilibré, qu'on espère harmonieux.
Donc tout ça, c'est prévu pour 2023 ?
Ah, le début des travaux, ça ne sera pas avant fin 2023, oui. Et avec des livraisons 2024-2025.
Et il y a aussi des projets qui voient le jour dès cette année, notamment concernant le stationnement. Alors, qu'est-ce qui va changer cette année?
Alors, vous n'ignorez pas que Oudan a la réputation d'avoir un centre-ville avec énormément de commerce. Bon, qui dit commerce en grand nombre, ils sont en grand nombre, ils s'en créent tous les jours, dit fréquentation commerciale, sinon ça ne marche pas. Et qui dit fréquentation commerciale dit que des gens viennent de l'extérieur, d'une zone de 20 à 30 km autour pour faire leurs courses. Ils viennent en voiture. Les commerçants eux-mêmes, le matin, viennent à Oudan et viennent en voiture, leurs employés aussi. Et donc il y a une équation à résoudre, c'est comment on fait pour faire de la place, pour que des clients puissent venir. Bon. Alors moi j'ai une solution, quand on me dit souvent on stationne mal à Oudan, etc., je dis c'est très bien, on supprime le commerce et on n'a plus de problème. Alors on me dit non, faites quand même pas ça. Alors, on n'a pas fait tout ça pour ça pendant des années. Bon. Et donc quelque part, il faut simplement, il faut que du bon sens en politique locale. Il faut dégager de la place pour les clients. Bon. Donc il faut enlever les voitures ventouses du centre-ville. Pour cela, eh ben, je ne connais qu'une méthode, c'est le stationnement payant. Avec le stationnement payant, qui est plein de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut dire le stationnement payant, nous le rendons avec peut-être 45 minutes ou une heure gratuit pour que des gens qui viennent de l'extérieur fassent leurs courses. En une heure, on a le temps de faire beaucoup de courses. pour ce. Mais par contre, il faut offrir une solution aux gens qui ne pourront plus être en situation de voiture ventouse dans la rue. Donc nous allons créer un parking de 130 places sur lequel on essaiera de dire aux commerçants, à leurs employés, allez sur ce parking avec un abonnement mensuel qui est au prix du marché des places de stationnement privées qui sont louées d'en haut dans. Et donc quelque part, on offrira une solution alternative. Et donc on est en train, plus des cartes de résident pour nos habitants qui habitent dans les rues commerçantes, on est en train de trouver un système équilibré qui, bien sûr, quand on annonce stationnement payant, ça fait peur à tout le monde. On dit, ça y est, vous allez vider le centre-ville, etc. Mais quand on l'explique et qu'on regarde si on a une solution pour les clients, pour les habitants et pour les commerçants eux-mêmes et leurs employés, ben progressivement, avec un peu de pédagogie, je crois qu'on arrive à trouver le bon chemin.
Et est-ce que vous avez aussi un projet au bout d'année qui ne pourrait pas consentir à l'effort financier d'une carte?
Alors bien sûr, nous pensons même que quelque part, il faut pas, que les gens qui habitent en centre-ville et qui ont une voiture, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer une carte de résident, et dans ce cas-là, on leur offrirait sans doute une place de stationnement en limite de ville, un petit parking avec une caméra pour le garder, mais que l'effort à faire en contrepartie d'une gratuité serait de marcher pendant 600 mètres ou 700 mètres pour aller à son parking. Voilà.
Autre projet au programme de cette année, la deuxième partie de la rénovation du groupe scolaire. Alors, quel est l'objectif de cette rénovation ?
Eh bien, quand on rénove, c'est bien sûr pour moderniser, pour rendre plus agréable et puis mettre aux normes, comme je le disais. Donc nous avons effectivement un ensemble scolaire qui a plus de... ce bâtiment est d'une architecture du début de 1910, 1900 et quelques. Bon, il y a eu plusieurs rénovations, il faut en faire de nouvelles, à la fois pour apporter toute la modernité qu'il faut, tenir compte des transitions énergétiques en isolant mieux, mais aussi en restructurant pour apporter une ou deux classes supplémentaires, changer la cantine, etc. Bref, c'est la vie normale d'un établissement, mais ça coûte cher de faire ça de nos jours. C'est un projet à plus de 3 millions. Heureusement, la région, le département et l'État nous ont aidés, mais il reste quand même une petite note à la fin. Mais il faut bien... l'éducation n'a pas de prix, n'est-ce pas? Et donc, nous faisons tout ce qu'il faut pour permettre. Alors, c'est aussi à relier au prochain quartier. C'est-à-dire que le prochain quartier apportera quelques élèves en plus, et qu'il faut le prévoir dès maintenant. Et donc, nous sommes en train de caler les calendriers pour que le nouveau quartier arrive quand l'école aura subi cette rénovation.
Plus globalement, Oudan a été sélectionné dans le programme national Petite Ville de Demain. Alors, qu'est-ce que ce dispositif va pouvoir apporter à la commune ?
Alors, nous ne sommes pas seuls. Hein. Le programme Petite Ville de Demain, je crois que c'est plus de 1000 petites villes qui sont sélectionnées. Alors, nous sommes très heureux d'être là-dedans parce que ça nous apporte d'abord une reconnaissance que notre ville vaut le coup. Elle vaut le coup. Elle vaut le coup d'être aidée pour la conforter encore dans son dynamisme actuel. Je crois que... nous ne sommes pas qu'un centre-ville, vous l'avez constaté sans doute, même s'il est très tôt ce matin pour le voir, vous l'avez constaté, il y a beaucoup de commerce, et par conséquent, nous ne sommes pas dans une situation où il faut reconquérir le centre-ville. Par contre, nous voudrions que ce programme nous aide à avancer plus vite vers une attractivité encore plus forte, une modernité du commerce et une résilience du commerce de centre-ville. Donc nous aurons le stationnement, nous aurons à accroître l'attractivité touristique, à accroître la fréquentation de Houdan. Nous aurons à, quelque part aussi, réfléchir totalement, vous avez parlé du stationnement, mais nous allons aussi... apaiser complètement la circulation en centre-ville en passant aussi à une zone 30 généralisée, etc. Donc, Petite Ville de Demain nous amène une reconnaissance. L'appartenance à un réseau où on peut échanger des expériences va nous apporter une grande capacité d'ingénierie externe. Actuellement, un diagnostic est fait sur notre ville et va nous aider quelque part à écrire ce que nous avons dans la tête, mais que nous n'avons jamais le temps d'écrire. Et quelque part, en ayant une assistance extérieure qui a un peu de recul, elle va cartographier, organiser tout ce que nous faisons, mais en le faisant d'une manière vraiment communicable. Et ça sera aussi une base pour les présentations de nos dossiers, etc. Donc, c'est un grand intérêt pour nous. Et je ne crache pas non plus sur le fait que ça nous ouvrira des portes de financement intéressantes. On ne va pas se cacher la vue non plus là-dessus.
Un petit mot sur un autre projet qui pourrait voir le jour à l'avenir. Ce sont les parcours sportifs. En quoi ça consisterait comment vous pourriez les mettre en place?
Je crois que vous... Comment dire, on a besoin dans une ville comme la nôtre d'équipements de proximité, de squares pour les gamins, etc., etc. Alors le parcours sportif, c'est pas une invention, hein. Il y en a partout. Partout, on met des trucs pour faire des étirements, se muscler les abdos, etc. Et on le fait plutôt. Il y a des choses qui se font, comme on dirait en franglais, indoor, et d'autres qui se font outdoor. Ben, celle-ci, on se dit qu'on a de grands espaces de promenade au bord de nos petites rivières, qu'on a de grands espaces verts, les gens s'y promènent, pourquoi on n'y installerait pas ce qu'on appelle un parcours sportif, c'est-à-dire des différents endroits où on peut faire de la muscule, etc. Mais en faisant les choses, à la fois pour un en mélangeant un parcours enfant et un parcours adulte, pour que finalement, le papa qui veut se muscler puisse quand même être accompagné par son gamin qui fera un peu d'exercice à côté. Voilà. Et pour madame aussi, bien sûr, mais on fera du parcours mixte. Voilà.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tous les grands projets qu'on a évoqués, ça représente beaucoup d'investissements. Comment la ville de Houdan gère son budget entre la crise Covid et les dotations de l'État qui sont en baisse?
On va dire, comme tous les collègues maires, on fait ce qu'on peut. C'est pas facile, effectivement, aujourd'hui, de se dire qu'on a les dotations qui vont encore baisser, les dotations de l'État, la taxe d'habitation qui a été supprimée et qui reporte, finalement, et qui prive les collectivités locales d'une autonomie financière, puisque, finalement, le seul levier d'action que nous avons encore, où l'on peut encore voter nos produits, c'est foncier bâti. Mais ça ne porte donc que sur une catégorie seulement de la population. Tout le reste sont des dotations de l'État, et quelque part, on nous prive d'une liberté d'organisation. Alors dans ce contexte-là, je vous le disais, on fait ce qu'on peut. Alors, pour vous donner l'idée, quand j'augmente les impôts de Houdan de 1%, je récolte 14 000 euros de plus de fonds. Donc c'est rien, c'est rien. Donc il faut devenir expert en... Et c'est dommage. Il faut devenir expert en recherche de subventions. Répondre aux appels à projets en tout genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités se transforment. Il faut qu'ils aient une capacité d'ingénierie de recherche de financement. C'est-à-dire que d'autres appelaient ça comment on fait la quête. Bon, voilà. Je regrette effectivement que nous n'ayons plus la liberté de nous organiser, parce qu'à Houdan, nous avons encore des potentialités. Nous avons des taux qui étaient très bas sur la taxe d'habitation, etc. Nous savons effectivement aller chercher des subventions. Nous travaillons ici en étroite collaboration avec la communauté de communes, et je crois que les communes de la ruralité auraient énormément de difficultés s'il n'y avait pas ce tandem communauté de communes et communes, puisque beaucoup de compétences ont été transférées à la communauté de communes. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est petite enfance, crèche, centre de loisirs, portage de repas à domicile pour les plus anciens, etc. Ce ne sont plus des compétences communales. Et donc nous sommes quand même déchargés de ces charges-là pour consacrer les finances qui nous sont encore autorisées à faire les projets scolaires qui restent dans notre compétence, à faire le stationnement qui reste dans notre compétence, mais tout le reste, c'est la communauté de communes qui le prend en charge. Donc, sans cette organisation commune, communauté de communes, je crois qu'on aurait beaucoup plus de soucis à se faire.
Un mot sur la crise sanitaire et la vaccination. L'année dernière, la ville a poussé pour l'ouverture dans Houdan du centre de vaccination du pays houdanais. C'était important d'avoir ce centre au plus près de vos administrés.
Écoutez, d'abord, c'est Houdan a accueilli ce centre pour la première édition du centre. Ensuite, nous l'avons fermé, croyant que tout allait bien. Il a fallu le réouvrir pendant 3 mois. Et cette fois-ci, nous l'avons installé à Septeuil. C'était le centre de vaccination du pays houdanais, non pas de Houdan. Et même si le maire de Houdan, qui est le président de la communauté de communes, avait suggéré dès le mois de décembre 2019 que l'on pourrait réfléchir à ça parce qu'on sentait qu'on allait vers des vaccinations, etc. Enfin, c'était bien 2020, ouais, c'est ça. Alors, début 2020... on s'est organisé, et lorsque on a créé un comité de pilotage, et lorsque nous étions prêts, lorsque le préfet a dit on va ouvrir des centres, et donc en milieu rural, nous avons apporté la vaccination en milieu rural, mais en s'organisant En fait, ce que nous voulions, c'est que, puisqu'au départ, rappelez-vous, c'était les plus de 75 ans. Alors, les plus de 75 ans, c'est ceux qui, pour une partie, se déplacent le moins bien et auraient eu du mal à aller au vaccinodrome de Saint-Quentin. Ce sont ceux qui sont les moins agiles pour aller s'inscrire sur Doctolib, etc. Et la fracture numérique, etc. Il n'y a pas toujours non plus les enfants pour les aider. Et donc, nous avons dit, nous allons débarrasser nos plus de 75 ans des soucis d'inscription sur Doctolib ou de prendre leur bagnole pour aller au vaccinodrome. On va faire ça sur place. Donc, Lagardère est venu vers les personnes et non pas le contraire. Et donc, ce sont les communes qui ont inscrit leurs anciens dans ce centre de vaccination. Bref, ça a été du coût humain pour les gens. Puis ensuite, lorsque l'âge a été abaissé, ben les gens se sont inscrits. Donc nous avons effectivement répondu. On a même fait de la vaccination à domicile en prenant un médecin, une voiture et aller pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer. On a aussi fait de la vaccination dans les entreprises, directement sur place. Bref, on a fait notre job, quoi. Voilà, c'est tout. Et je crois que c'était apprécié. Et c'était aussi apprécié parce que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la communauté de communes, qui ne se rendaient pas compte des services que ça rendait, on sortait des centres de vaccination en disant c'est vachement bien, et si c'est ça la communauté de communes, c'est pas mal. Voilà, donc c'était aussi, ça participait à l'image aussi.
Il nous reste une minute pour évoquer l'événementiel. Donc là, la vie reprend peu à peu avec l'allègement des contraintes sanitaires. Vous avez bon espoir de reprendre vos grands rendez-vous, comme par exemple la fête de la Saint-Christophe?
Alors, à chaque fois qu'il y a eu une trêve sanitaire, nous en avons profité pour refaire de l'événementiel. On n'a pas perdu une minute pour le faire. Donc, dans les éclaircies sanitaires, on a pu effectivement faire. Et l'an dernier, on a pu reprendre la Saint-Mathieu dans son format, qui est notre grande foire annuelle, dans son format classique et qui attirait près de... Parce qu'on a compté avec les bracelets, on a mis des bracelets pour le pass sanitaire, on a eu environ 30 000 personnes pendant ce week-end-là. Oui, la Saint-Christophe, il faut la relancer, mais notre problème de la Saint-Christophe n'est pas un problème de crise sanitaire ou pas. C'est un problème de savoir comment on renouvelle un genre de manifestation culturelle traditionnelle avec des chars fleuris, etc., des corsos fleuris, qui provoquent... Que les spectateurs aiment bien, mais ce qui n'ont de sens que s'il y a beaucoup d'acteurs qui décorent leur voiture, etc. Donc notre vrai problème, c'est comment on relance une envie populaire pour cela, et que ça ne soit pas simplement un défilé que de chars et de voitures que la commune aurait loué, etc. Ça n'a de sens que si c'est le résultat d'une envie de la population.
Merci beaucoup Jean-Marie Tétard de nous avoir reçus ce matin à Oudan.
Je vous en prie.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à notre réalisateur Robin qui travaille en coulisses. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Juste après la pub, on retrouve Pauline et Fredo pour la matinale jusqu'à 9h. Très bonne journée à l'écoute de BPM.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.